Donc, on va commencer Bezrat Hashem et notre premier cours sur les Ketoret. Je sais pas, vous prenez la Ketoret dans votre tuto, je sais pas quelle page c'est.
Même Tehillat Hashem.
Dans Tehillat Hashem, c'est pas le...
18.
La meilleure version est dans Tehillat Hashem. Ketoret, peu importe, ou avant la Tfila ou après la Tfila. Donc, ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus avec M. Benichou. Moi, je me suis occupé du côté Torah. Je lui ai donné le nom en latin avec les photos et Baruch Hashem m'a fait un travail exemplaire. On n'a pas encore fini, il nous reste encore quelques points. Donc d'ici on est avec les photos et tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc d'ici la semaine prochaine, Bezrat Hashem, la semaine prochaine on étudiera les noms, etc. et les avis. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Ah oui, j'ai tout. Non, j'avais besoin du pharmacien pour m'expliquer parce que moi je comprenais pas grand chose. Ça je comprenais pas. C'est ça que je comprends, mais ça je comprends pas.
Newton
non plus, hein.
Si, Baruch Hashem. Alors. Donc là, on va parler des Ketoret. Qu'est-ce qu'il y a donc, mais avant donc de commencer les Ketoret, on va amener ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut s'efforcer de dire le texte des Ketoret le soir et le matin. Donc quand il parle le soir et de matin, il parle de Mincha et donc de Shacharit après la Tfila. Donc à la base, on le lisait après la Tfila. Ça après. Dans le Mishnah Moura, il dit qu'après, ça a été modifié. On dit que c'est pas spécialement après la Tfila. Ça peut être aussi avant la Tfila. Par exemple, le matin, on le lit avant et après la Tfila. Mais à Mincha, on le lit seulement avant la Tfila. Mais d'accord? C'est le Torah de Mincha, on le lit avant la Tfila. Alors, pourquoi on le fait pas la nuit? Puisque la Ketoret, on la faisait pas la nuit. C'est écrit dans le Zohar, par Shavayakel, que les Ketoret est très très important et que même aujourd'hui, celui qui lit tous les jours la paracha des Ketoret, il est sauvé d'énormément de choses. C'est écrit que les forces du mal ne peuvent pas avoir d'emprise sur lui.
Sur le parchemin,
je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est écrit comme ça. C'est écrit que celui qui lit les Ketoret avec Kavana tous les jours, c'est un srout, un mérite extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, il dit la chose suivante. Il dit, si les hommes savaient combien était important les Ketoret devant Akadosh Baruch Hu, ils auraient pris chaque mot des Ketoret. Et il l'aurait décoré, il l'aurait mis sur leur tête pour le couronner, pour se couronner avec. Ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une expression pour dire que, c'est écrit dans le Zohar, ça c'est une expression pour dire que la paracha des Ketoret est très 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 importante. Alors, avant de commencer le texte donc des Ketoret, je vais vous dire d'abord quelques halachot qu'il y a autour des Ketoret. D'abord, ce qui est intéressant autour des Ketoret, c'est quoi? C'est que la mitzvah de préparer les Ketoret est une mitzvah. Je m'explique. Dans toutes les mitzvot, mettre les tefillin est une mitzvah, mettre la mezouza est une mitzvah, mais par contre, préparer la mezouza, c'est pas une mitzvah. Préparer les tefillin, c'est pas une mitzvah. On appelle un marchir. Ça s'appelle un marchir, ça veut dire une préparation à la mitzvah.
Fabriquer, vous voulez dire?
La fabrication. Fabrication des tefillin n'est pas une mitzvah. Je suis en train de préparer une mitzvah. Préparer ma soukha, c'est pas une mitzvah. Préparer le Shabbat, c'est pas une mitzvah. Bien sûr que c'est bien. Non. C'est bien. Après, bien sûr, on va montrer comment on chérit la mitzvah et tout ce que vous voulez, mais c'est pas la mitzvah. La mitzvah de Soukha, c'est pas ça. La mitzvah de Soukha, c'est que pendant 8 jours, tu dois habiter dans une Soukha. Ce qui est de particulier dans la Ketoret, c'est que il y a une mitzvah, bien sûr, d'offrir les Ketoret tous les jours, comme on verra après, mais il y a une mitzvah également de les préparer. Vous suivez?
C'est-à-dire que... Alors, d'allumer les Ketoret.
D'allumer les Ketoret, c'est une mitzvah. Mais à part ça, préparer les Ketoret, le mélange, c'est aussi une mitzvah. D'accord? C'est aussi une mitzvah. Mais d'accord? Je t'ai préparé un café, je viens hier?
Oui,
vite. Ah, d'accord. Je me rappelle. D'accord. Bon. Ah oui, à midi, je me rappelle. Ok. Néanmoins, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Enfin, le Shulchan Aruch, c'est ramené surtout dans Maïmonide. Il dit que cette mitzvah-là, on faisait pas de bracha sur cette mitzvah. C'est-à-dire quand on préparait les Ketoret, bien que préparer les Ketoret, on a dit c'est une mitzvah, on fait pas de bracha. Pourquoi on fait pas de bracha? Parce que le Maïmonide donne le principe suivant, il dit on fait la bracha uniquement lorsque l'action qu'on est en train de faire est la phase ultime de la mitzvah. C'est-à-dire c'est maintenant qu'on est en train de finir la mitzvah. On a fait la mitzvah. Or, comme quand on prépare les Ketoret, on n'a pas encore fait la mitzvah, elle viendra plus tard. C'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha. Autre chose intéressante aussi à propos des Ketoret, c'est que les Ketoret devaient être payés avec l'argent de la communauté. On est d'accord? Allez, messieurs. les Ketoret devaient être payés avec l'argent de la communauté. Donc apparemment, c'était la même caisse qui payait les sacrifices qu'on offrait tous les jours. Le sacrifice du Tamid, de la même caisse, qu'on appelle donc la Troumat Alishka, de cette même caisse-là, on offrait les Ketoret. Pas seulement ça, c'est écrit dans la Gemara Mnachot, on apprend un verset, que si un jour un Kohen a payé de ses propres deniers les Ketoret qu'il l'a offert, c'est considéré comme Ketoret Zara, comme une encens étrangère, et c'est très grave.
Tu peux mourir.
D'accord ? C'est très grave. Non, c'est pas Chayav Mita, mais s'il a fait sans faire exprès, c'est pas Chayav Mita, mais c'est très très grave. C'est écrit, Lo ta'alu alav Ketoret Zara ve'ola u'mincha, c'est écrit clairement que c'est assour. On dit, c'est quoi une Ketoret étrangère ? Explique là-bas la Gemara Mnachot, c'est une Ketoret étrangère, c'est une Ketoret qui a été offerte par les propres deniers du Kohen ou de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on doit payer ça, de l'argent de la communauté. Bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant dans la Ketoret aussi, c'est qu'on l'a préparé une fois par an. Le mélange, alors, techniquement, on pouvait le faire une fois par jour si on voulait. On avait le droit de le faire. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais bon, a priori, la majorité des commentaires disent qu'on pouvait la faire une fois par jour. Mais dans les faits, on la faisait une fois par an. C'est pour ça qu'on parlera après de mesures. D'accord? Shlosh mod vishim vachamisha, kenyon yamotrama, etc. On parlera de mesures puisque dans les faits, on l'a préparé une fois par an. Quand on l'a préparé? Alors, non? Quand on l'a préparé? On l'a préparé proche de Rosh Chodesh Nissan. Puisque rappelez-vous, on l'a dit il y a quelques mois, la collecte des shkalim qu'on faisait pour offrir les sacrifices du public était toujours le mois de Hadar. Be'echad, la Mishnah shkalim a dit, Be'echad ve'Hadar mashmin al shkalim. Voilà, c'est la mise du Rambam d'aujourd'hui. Non. À partir du premier Hadar, Mashmin al Ashkalim ont commencé à annoncer le Machatit HaShekel. Et on avait tout le mois pour le payer. Nous, aujourd'hui, la mise de Machatit HaShekel, on l'a instauré. D'abord, aujourd'hui, c'est un Zecher, la Machatit HaShekel, ce qu'on donne aujourd'hui. C'est un souvenir. Pour se rappeler de Machatit HaShekel. Donc, on l'a instauré dans un jour de, tant qu'à faire, on l'a instauré dans un jour de, dans le jour du jeûne, puisque le jour du jeûne, c'est un jour de Tshuva. Donc, on a dit, tant qu'à faire, on va l'instaurer ce jour-là. Mais en vérité, tout le mois, il est cachère. Tout le mois, on peut mettre Machatit HaShekel. N'oubliez pas que Machatit HaShekel aujourd'hui n'est plus une mitzvah. C'est un zecher, c'est un souvenir pour une mitzvah. Alors, quand on préparait les ketorets, donc rappelez-vous, puisque la caisse était toujours renouvelée, on a dit dans le mois de Hadar, donc jusqu'au mois de Nissan, donc a priori, les ketorets étaient renouvelées elles aussi.
Quand vous dites zecher, c'est une mitzvah, de donner les marques.
Non. C'est d'accord.
Il n'y a plus,
Marc. Non.
Il n'y a plus de
sacrifice. C'est la caisse pour le sacrifice, c'est pas de sacrifice.
J'ai entendu dire, c'est une mitzvah, de donner les marques.
Un zécher.
Ça fait partie des 5 mitzvahs de Purim, non ?
Oui. C'est sûr, c'est une mitzvah que les Chachamim ont instauré.
C'est pas la mitzvah.
C'est pas la mitzvah de la Torah. C'est pas la mitzvah de la Torah qu'on a rien à voir.
Mais tout Purim, de toute façon. Tout Purim, c'est, ça n'existe pas dans la Torah.
C'est toujours en dire qu'il y avait 5 mitzvahs à Purim.
Oui, oui.
Dans le marché.
Oui, comme Chachamim. Nous disons, c'est une mitzvah de prendre la canne du monsieur et de le pousser au milieu de la rue.
Alors,
non, en fait, il dit que la mitzvah des Chachamim, c'est pas une mitzvah, en fait.
Oui, c'est pour ça que je n'ai pas compris.
Bien sûr, c'est pas comme ça.
Alors, le niveau de Purim, il n'y en a que 3.
Oui. Mais c'est un zecher, pour souvenir. Il y a le Mishté, il y a la Megil, Mishloach Manot, il y a la Megillah, d'accord, et il y a Matanot Lavionim, 4.
Oui, mais donc, c'est vrai que Machatit HaShekel, c'est en plus de,
oui.
C'est un zecher. De Matan Lavionim.
C'est pour ça qu'il y a tellement d'avis. C'est pour ça que je vous expliquais. C'est pour ça qu'il y a même tellement d'avis aujourd'hui. Combien on a donné Machatit HaShekel?
C'est parce qu'ils nous demandent un chèque. D'accord. 1€, 2€.
Alors, des fois, il y en a qui vont vous dire 3 pièces de 1,5€, donc la pièce du pays. Il y en a qui vont vous dire, il faut prendre la valeur de l'époque. Parce que pourquoi c'est pas très clair? Parce que dès le départ, c'est un minac. C'est un minac, c'est juste un minac pour se souvenir de ce qu'on faisait à l'époque. Alors, ça c'était le premier. Ça c'était le premier qu'on a fait. La première fois qu'on l'a fait, c'était pour ça. Alors, à part ça, on nous raconte dans la Gemara, d'accord, que c'était un grand mérite de préparer les Ketoret, et que les Kohanim presque se battaient pour ça, et qu'à la fin, on a donné ça au Kohanim qui descendait de Aftinas. Il y avait d'ailleurs une section dans le Beth Amikdash qui s'appelait Beth Aftinas. Et c'est là-bas où on préparait les Ketoret. La Mishnah nous raconte aussi que...
Monsieur, s'il vous plaît, j'entends tout ce que vous dites.
La Mishnah nous raconte que à un certain moment, on a amené des professionnels d'Alexandrie pour les aider à faire les kétorettes. Pour les aider, oui, parce que c'était, il fallait vraiment, il y avait un parfum. Donc on a amené des professionnels d'Alexandrie. D'accord ? Et là, c'est intéressant parce que d'habitude, on se servait toujours de nos propres talents. Par exemple, pour le Mishkan, on s'est servi de Betzal El. D'accord ? C'est rare qu'on est parti chercher ailleurs. Des fois, on est parti acheter d'autres choses, comme les cèdres du Liban. Donc on est parti chercher des talents extérieurs, c'est rare. Ouais. Oui, il est parti chercher.
Il est parti chercher les compagnons.
Il est parti chercher Shlomo Meller, il est parti chercher, comment on appelle ça, des matériaux.
Les compétences de Hiram, le roi du Liban, qui avait tout un personnel là-dedans.
Les compagnons qu'on a aujourd'hui. Les compagnons qu'on a aujourd'hui.
Tant qu'on l'appelle, non, c'est autre chose.
Les compagnons, ils tirent leur origine, justement, du Bétamigdash.
Du Bétamigdash, d'accord. Et eux, ils étaient quoi?
C'est eux qui faisaient
des artistes.
C'est eux qui ont fait
les artistes.
Hiram, je connaissais Hiram.
Non, ça, c'est ce qu'on appelle les francs-maçons de... Mais c'est après qu'il y a eu les chevaliers du temple.
C'est où c'est écrit ça?
Adab. C'est pas ni dans la Torah, c'est dans
les templiers, les chevaliers du temple. Quoi,
c'est... Et c'est l'eschatologie
chrétienne. Je te parle des compagnons qui, eux, aujourd'hui, ont fait des châteaux, ont fait des,
oui, mais c'est
fait
qui,
des églises, ont fait des œuvres.
Ils se disent descendants de ce...
Moi, je connais, c'est écrit dans le Nard. C'est écrit dans le Nard, quand on parle de la construction du Beit HaMikdash, c'est écrit, c'est vrai, comme c'est écrit que Shlomo HaMelech a demandé des conseils à Hiram. D'accord ? C'est écrit que Shlomo HaMelech a demandé...
Personnel aussi.
Non, il a demandé des conseils, c'est écrit. En tout cas, Hiram, ça c'est écrit. Maintenant, le temple, les compagnons, je sais pas ce que c'est. Mais bon, peut-être. Hein, En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les Ketoret, on est parti chercher des...
Oui,
bon, pour moi. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les Ketoret, c'est écrit chez nous, c'est écrit qu'on est parti chercher des professionnels d'Alexandrie. Apparemment, à la base, c'était des gens, c'était leur spécialité.
Le deuxième temps.
Non, dès le premier.
Il n'y avait pas Alexandrie.
Si Alexandrie, chez Mitzrayim. Comment on a dit avant, sur le premier métamidage. Sur le premier Ketoret. Alors maintenant, on va passer directement au Psukim, et on va essayer d'expliquer, donc, au travers des Psukim, qu'on va dire ici. Donc, avant même d'arriver aux composants, on verra la semaine prochaine, avant d'arriver aux composants, on va voir les psukim qui nous parlent de la manière comment on devait préparer les Ketoret. Donc, Vayomer Hashem Moshe, Karl Rassamim, vous avez? Voilà, ici c'est Vayomer Hashem Moshe.
Tout le début c'est quoi?
Le début c'est un psaume d'introduction à la prière. Après, le psaume d'introduction à la prière. Après, on a le sacrifice du Talmid, qui était l'après-midi aussi. Après, on a une petite introduction qui a été annoncée par le Chavé pour dire que on va faire les Ketoret de la même manière que tu nous as ordonné. Voilà. Mais là, on rentre dans Vayomer Hashem Moshe. Là, dans Vayomer Hashem Moshe, c'est le Passouk qui parle des Ketoret.
C'est ça, ça c'est de la Torah.
C'est de la Torah. Donc, le Passouk qui dit la chose suivante, il dit Vayomer Hashem Moshe, Dieu a dit à Moshe la chose suivante. Kach Lecha Samim. Alors, plus tard, on citera qu'il y a 11 composants. La Torah ne dit pas explicitement qu'il y a 11 composants. D'accord ? Non, attendez, il n'y a pas 11 là. Combien vous en avez ici ? Samim, Nata, Fushrelet, Vechelbena, Samim, Ulvona Zaka. Ulvona Zaka, c'est un seul mot. Ça fait combien ?
On en déduit 2.
5 là, non ?
Ça fait 5 là, d'accord ? Ça fait 6 même, exactement. Écoutez bien comment les Chachamim font le calcul. La Gemara Mnachot. D'accord ? Dans la Gemara Mnachot, les Chachamim ont expliqué la chose suivante. Ils ont dit, Kach Lecha Samim. Donc Samim, ça veut dire des ingrédients. Samim, c'est au pluriel. Donc c'est un minimum de 2. Ensuite, Nataf. On expliquera après ce que c'est les composants. Nataf, Ushrelet, Vechelbena. Ça fait combien là ?
3.
Ça fait 5.
3. Donc en tout, ça fait 5. On est d'accord ? Ensuite.
Ah ! Vous voulez pas Samim, c'est pas.
Non. Ah oui,
c'est 2 points.
Ça, c'est une drachat des Chachamim. Bien sûr, on peut passer à côté.
Non, faut oublier les 2 points, dans tout, on se fait avoir.
Non, des fois, il y a les 2 points, mais là, c'est pas les 2 points. Samim. Nataf, Ushrelet, Vechelbena. Donc on est à combien pour l'instant ? On est à 5. Ensuite, minimum. Le verset, il répète encore une fois Samim.
Ah, donc c'est un autre type de Samim.
Donc ça veut dire quoi Samim ? Ça veut dire encore 7, une fois. Non.
Ah oui.
Non.
C'est au pluriel aussi.
Ça veut dire comme lui qu'on croit comme ça. Ça c'est la Gemara qui dit comme c'est une dracha, hein, bien sûr. Il dit, ça veut dire quoi Samim ? Ça veut dire tu fais fois 2 ce que je t'ai déjà dit.
Ah d'accord.
Donc on arrive à 10. Bon, c'est une dracha, attention, c'est pas écrit, ne cherchez pas. Ensuite, ou le bonazaka. Le bonazaka c'est un seul mot. Donc on a encore un autre. Ça nous fait 11. Alors maintenant, c'est quoi ces 11? On verra la semaine prochaine. Bad bevadim. Mais avant de parler de ces composants, on va d'abord parler de la manière comment on devait les préparer. Alors, tout d'abord, on nous dit bad bevadiyé. Bad bevadiyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devra prendre la même mesure des quatre composants qui ont été cités explicitement. C'est quoi les quatre composants qui ont été cités? Nataf, Ushrelet, Vechelbena et Levonazaka. Puisque Samim en hébreu, ça veut dire un ingrédient.
Ouais.
D'accord? Donc c'est pas le nom d'un ingrédient.
Samim.
D'accord? Si on verra que dans certains. On verra que le deuxième Samim correspond à Debé Samim. On verra après ça. Alors, donc les quatre qui ont été cités explicitement, on devait prendre exactement la même mesure. C'est Rachid qui explique comme ça.
Bad Bevad, c'est le même.
Bad Bevad, d'accord? Ça veut dire séparément. D'accord? Et Rachid explique, ça veut dire quoi séparément? Ça veut dire qu'on devait prendre de chacun de ces quatre qui ont été cités explicitement, on devait prendre la même quantité. Les autres, c'est pas cité. On est d'accord? Ça c'est Rashi. Ibn Ezra explique autrement, le Bad Bevadiyé. Ibn Ezra il dit que Bad Bevad, ça veut dire que ces quatre composants-là devaient être écrasés et moulus séparément. D'accord? Et c'est seulement après qu'on devait les mélanger. Donc Bad Bevad, ça veut dire séparément. Ça veut dire quoi séparément? Deux commentaires. Rashi qui dit, ça veut dire qu'on devait prendre séparément de chacun la même quantité. Ibn Ezra qui dit, ça veut dire qu'on devait les moudre.
Pour mettre la même quantité, c'est mieux de les moudre et de
non, ouais, justement, Ibn Ezra dit non.
Comment tu peux faire,
Ibn Ezra dit, tu prends la même quantité séparément. D'accord? Même poids. Tu les mousses séparément et après seulement on les mélange. Très spécial, hein, vous allez voir, il y a plein de restrictions particulières dans les kétorettes. Ensuite. Veasita ota kétorette. Donc tu prépareras tous ces ingrédients, kétorette, donc pour les préparer à la kétorette. Rokar, maase rokear. En les mélangeant, maase rokear, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un mélange, maase rokear. Alors, mirkachat, merkachat en hébreu. Quand même aujourd'hui en hébreu moderne, c'est une pharmacie. D'accord?
Ah oui,
une pharmacie, rokear, même un.
Bon, aujourd'hui, on utilise plus...
aujourd'hui, on n'utilise plus tellement ce mot en Israël, mais rokear, d'accord? À l'époque, hein, le rokear chez les. Pas en hébreu qu'on l'utilisait avant, c'est le pharmacien qui préparait lui-même les médicaments.
Préparation magistrale, ça s'appelle.
Mais fait maison, c'est-à-dire il préparait sur place. On l'appelait le rokear. On appelle Bet Mirkachat, on appelle.
Ça encore.
Voilà.
Si, ça
se
fait,
il y en a une. Si, ça se fait encore.
Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle fait des...
Avec les herbes, les herboristes. Ouais, les herboristes, ils sont...
Ah, les herbes,
oui.
Les herbes, oui.
Non, les herbes, non, mais pas les... Tout, les antibiotiques et tout.
Elle fait tout.
Voilà, quand j'ai commencé,
on les mélange. Ah, tu vois, c'est
pas vrai. Vous avez des antibiotiques et tout?
Non.
Ah.
C'est pas les antibiotiques.
Oui, sinon c'est une blague. C'est une blague.
Il y a encore des préparations magistrales.
Rokar ma serokar, memoulard tahor kodesh. Donc, rokar, il devra être écrasé. Ma serokar, écrasé comment? Écrasé exactement comme si on était en train de préparer une potion, donc un médicament. C'est-à-dire vraiment concassé. Memoulard, ça veut dire quoi memoulard? Memoulard, ça veut dire bien mélangé. Alors, d'où vient le mot memoulard? Memoulard, ça veut dire le mot malach. Malach, en hébreu, c'est un marin. D'accord, vous savez, le marin, celui qui dirige le bateau. Ça veut dire celui qui dirige le bateau et qui donc pour diriger le bateau, il doit forcément remuer l'eau. Alors c'est de là qu'on a pris, Rashi explique comme ça, il dit que le mot memoulah, ça veut dire quoi?
Ça
veut dire
couilleur.
Bien remué, bien mélangé. Ça c'est Rashi qui explique comme ça. Non, Ramban, Nahmanide explique autrement.
Memoulé, c'est d'accord un farci.
Memoulé, c'est un farci, oui. Là, c'est Memoulard, il y a Malach. Ramban, Nahmanide explique autrement, il dit que Memoulard, dans le mot Memoulard, on a aussi le mot Melach, pas Malach. Malach, on a dit, c'est un marin, c'est lui qui dirige le bateau. Mais on a aussi Melach. Melach, c'est quoi? C'est du sel. D'accord?
Concassé, donc, comme le sel.
Melach, c'est Sédomite. D'accord?
Le
fameux sel qui venait de Sodome. Donc, Nahmanide dit que d'après lui, Memoulard ici, il veut dire le sel, et qu'on devait mélanger tous ces ingrédients à chaque fois séparément avec du sel. Du sel qui venait de Sodome. Vous voyez comment, à chaque étape du pasouk, il y a toujours plusieurs avis. Vous voyez comment c'est compliqué. Et là, je cite que deux avis, parce que là, ici, j'ai le livre que j'ai devant moi. C'est un livre qui a été composé que sur les kétorettes. D'accord? J'ai 10 commentaires sur les kétorettes. Ouais, parce que j'ai le Radak, j'ai le Harour, j'ai le Avoudram, j'ai le Rokear, et le Vitri, Shitame Koubetset, enfin, Rabbeinu Gersham, différents avis pour expliquer les kétorettes. D'accord? Rachid, et bon, je cite encore des fois quelques autres, mais Rachid, je me suis basé sur Rachid principalement.
Mais il marche aussi au radar.
J'ai pas compris.
Au radar aussi, tu marches, non?
Rachid.
Non, il y a un radar.
Parce que tu as dit qu'il y avait le radar.
Il y a un de radar.
Radak, ah
ouais.
Alors, radar. Rabbi David Kimri.
On a des. les détecteurs.
Donc. Alors, memoulard, donc on a dit memoulard, ça veut dire soit bien mélangé, soit ça veut dire mélangé avec du sel, le sdom. Tahor, d'accord, tahor kodesh. Alors, c'est quoi tahor kodesh? Tahor pur, ça veut dire quoi pur? Pur, pur, ça veut dire quoi? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a une explication intéressante, Rashi ne dit rien. Mais l'explication intéressante du Or HaChaim HaKadosh, qui dit que Tahor, ça veut dire quoi pur? Il dit que c'est comme, écoutez bien ce qu'il explique, il dit que on voit que dans la Torah, quand on parle de l'or, on emploie également la même expression, Zahav Tahor, de l'or pur. Ça veut dire quoi de l'or pur? L'or n'est pas pur, il n'y a pas de pureté dans l'or.
Discovery.
Ça veut dire quoi pur? Pur, ça veut dire que il n'y a rien qui est mélangé, exactement. Ça veut dire que il n'y a rien qui est mélangé.
Homogène.
C'est homogène, parce que vous savez que l'or, quand on le prend, il y a plein de résidus qui sont mélangés. Bon. Alors, c'est quoi Memoulard Tahor Kodesh? Ça veut dire quoi Memoulard Tahor Kodesh? C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune poussière qui est mélangée au Ketoret, quand on le prépare. Ça, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il fallait les filtrer, il fallait faire tout ce qu'on devait faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de poussière. Très dur, parce qu'on prenait, c'était des plantes, comprenez. Et Rachel Makadosh, il dit que, c'est quoi, ça veut dire quoi Tahor? Tahor, ça veut dire qu'on devait s'assurer qu'il est clean.
Pas plantes,
d'accord? Rien.
Dessus,
pas de parasites, rien, pas de poussière, on devait le nettoyer, pas d'insectes, rien. Tahor. Comme de l'or pur. Kodesh, bien sûr, c'est-à-dire dédié pour la kedusha, c'est-à-dire que tu peux pas aller te servir dans une pharmacie. Kodesh, il faut que ce soit quelque chose que dès le départ, il est préparé pour le Bet HaMikdash. Vesharakta mimena hadek. Donc tu devras le moudre. Hadek. Hadek, ça veut dire bien très fin. Dek, dans le mot dek, on a dak. Dak en hébreu qui veut dire fin. Donc tu devras le moudre de manière très fine. Venatata mimena, et tu devras prendre un petit peu de cette ketoret, et donc là on arrive au service des ketoret. Lifne haedut, bol moed, devant, donc devant le haedut, donc devant l'autel qui est appelé l'autel du témoignage, ça veut dire c'est l'autel qui se trouvait à l'intérieur du Beit HaMikdash, il y a un autel qui était dans la cour, dans laquelle on faisait la majorité des sacrifices. L'autel qui était à l'intérieur, qui était beaucoup plus petit, qu'on appelait le Mizbeach HaZahav, l'autel en or, comme on étudiera à Bezrat Hashem dans les jours qui suivent, dans les cours qu'on fera sur le Beit HaMikdash pendant les 3 semaines. Donc, l'Ifne Haedut, on devra amener ces Ketora devant l'autel qui est appelé l'autel du témoignage, Beol Moed, qui se trouve dans la tente d'assignation, donc à l'intérieur, Asher Ivaed Lechashama, l'autel dans lequel je m'adresse à toi, puisque Dieu, lorsqu'il s'adresse à Moshe Rabbeinu, Par où il s'adressait à lui? La voix sortait, même si Moshe Rabbeinu était dehors, mais la voix sortait toujours de la tente d'assignation. Kodesh Kadashim Tielachem, et la Ketoret, écoutez bien, devra être le Saint des Saints. Ça veut dire que, de là, on apprendra plusieurs à la halakhot, qu'il y a des choses pour lesquelles la Ketoret a plus de Kdusha même que les sacrifices. Parce que dans les sacrifices, il y a des sacrifices qui sont Kodesh, qui sont simples ce Kdusha. Il y a des sacrifices qui sont Kodesh Kadashim, qui sont double Kdusha. Les Ketoret, dans quelle catégorie ils rentrent? Kodesh Kadashim. Bien que bon, c'est un mélange de... D'accord, c'est un mélange de... Alors, ce qui est intéressant, on a parlé dans le cours de Tania il y a deux semaines, on voit que, et ça on le verra à Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais on verra comment un Kadosh Baruch Hu dans le Beit HaMikdash, il veut qu'on fasse appel à un petit peu toutes les catégories qui existent dans le monde. Donc des animaux, des oiseaux, à peu près tout. Végétaux. Du minéral, des végétales, des plantes. Et ça, on développera un peu plus la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Vénémar, deuxième verset qui parle des Ketoret, donc c'est un autre verset. Veiktir alav Aaron Ketoret Samim Baboker Baboker. Aaron devra donc brûler, puisque les Ketoret c'est des encens. Donc Iktir c'est brûler les Ketoret. Ketoret Samim, les Ketoret qui sont composés avec des encens. Baboker Baboker, très tôt le matin. Donc les Ketoret devaient être faits très tôt le matin. C'est pour ça qu'on dit Baboker Baboker.
Oui,
le matin, le matin.
Pourquoi Baboker?
C'est des expressions. C'est dans la Torah, quand on veut appuyer sur quelque chose, on dit deux fois.
Parce que plusieurs fois dans la Torah, quand on dit tôt le matin, on dit Hashkem Baboker.
Abraham,
Hashkem. Plusieurs fois,
on dit Hashkem, il s'est levé le matin.
Mais quand on est dans le Nord. Hashkem
Baboker, c'est. Oui, je comprends la question. Mais quand on a une injonction à quelqu'un, très souvent dans la Torah, on répète deux fois. Pour te dire. Baboker, Baboker. C'est pas la seule fois, c'est plusieurs fois ça.
J'ai pas compris où s'arrêtait la Torah, où repasser le commentaire, et pourquoi on met donc Venehemar, on va citer la Torah.
Kodesh Kadashin Tielachem, ça c'est un premier verset.
Ça c'est la Torah.
Ça c'est la Torah.
Venehemar.
Ensuite, Venehemar, il y a encore un autre verset, et à partir de là commence un autre verset.
D'accord. Venehemar, donc c'était un verset avant, d'accord. La Torah.
Non, Vayomer Hashem Moshe Karlecha Samim, c'est Shemot, chapitre 30.
Shemot.
D'accord, la mettre d'alette.
C'est ça, tout ça c'est la Torah.
D'accord.
Sauf Venema.
chapitre 30, non, verset 34.
Un autre verset de Torah.
Là, Venema, on reprend, mais là, c'est un autre verset, qui est chapitre 30, verset 7, qui est un verset avant, en vérité.
D'accord. Dans Shemot aussi?
Oui, Sham, ça veut dire là-bas, ça veut dire le même référence, mais on reprend verset 7. Donc, Venema, Veiktir alav Aaron ketoret samim. Aaron devra donc brûler dessus. Donc, sur, c'est quoi dessus? Sur quel, sur l'autel. D'accord? Ketoret samim. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, là, on voit clairement comment ce verset-là a été dit après, mais en vérité, on aurait dit, a été dit avant, pardon. Mais en vérité, c'est après que l'on aurait dû être dit. Donc, Veiktir alav Aaron ketoret samim. Il devra donc brûler dessus la ketoret des encens. Vaboker, vaboker, très tôt le matin. Behetivo et anerot yaktirena. Au moment, donc juste avant ou juste après, qui préparait les bougies, vous savez qu'on préparait les bougies de la menorah, qui brûlaient toute la nuit, pas toute la journée. La bougie de la menorah brûlait toute la nuit. Le lendemain matin, le Kohen, quand il venait, il nettoyait, d'accord ? Alors bien sûr, le nerf central, on ne l'éteignait jamais, celui-là. Celui-là, on attendait le soir, mais on ne l'éteignait jamais. Mais les nérotes, les autres bougies qu'il y avait, donc les trois d'un côté, trois de l'autre, ces autres bougies-là, on les éteignait, enfin le matin, normalement, elles étaient déjà éteintes quand on les laissait aller jusqu'au matin, mais le matin, normalement, elles étaient déjà éteintes. On s'arrangeait pour qu'elles soient déjà éteintes. On donnait la mesure exacte pour la nuit. Et donc, le Kohen, il devait nettoyer. Il devait nettoyer et préparer.
Et rallumer.
D'accord ? Non. Le soir qu'on rallume.
Le soir.
Non.
C'est pas le matin.
C'est le soir.
On allume 5.
Ah, non. Si, c'est le soir. Deux. Le soir, on allume la menorah. D'accord ? Le soir, on allume la menorah. C'est, on le prépare le matin. Behetivo et anerot et kirena. Donc, on va en reviendra après, mais bon, tu peux voir, il n'y a pas de problème. Behetivo et anerot et kirena. Donc, au moment où il devait préparer les bougies, c'est là que au moment où on préparait les bougies, c'est-à-dire soit peu avant, soit peu après, c'est là yaktirena, c'est là qu'on va brûler l'encens des ketoret, donc c'est à ce moment-là. Uvealot Aaron et anerot ben arbaim yaktirena. Et de la même manière, lorsque Aaron allumait les bougies, vous voyez comment on dit fait, allumer les bougies, on dit aalot. Aalot en hébreu ça veut dire quoi?
Faire monter.
Qu'est-ce qu'on fait monter quand on allume les bougies? La flamme. Parce qu'on avait une idée de faire monter la flamme. C'est écrit ici.
Donc elle n'est pas complètement montée d'ailleurs, elle n'est pas allumée parce qu'elle peut s'éteindre facilement.
C'est écrit là. Uvealot Aaron et anerot ben arbaim. Lorsque Aaron fera monter les bougies l'après-midi. Yaktirena, il devra encore une fois faire les ketoret. Donc combien de fois on a les ketoret par jour?
Deux fois.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les ketoret sont liés à la menorah. D'accord? Parce que le sacrifice du tamid, on le faisait très tôt dans l'après-midi. Alors que la menorah, on l'a préparée très tôt le matin, et on l'allumait juste avant la tombée de la nuit. On est d'accord? Juste avant la tombée de la nuit, dès qu'on arrive à la Shkia, un peu avant, c'est là qu'on allume la menorah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ces deux moments-là, on devait offrir la ketoret. Donc apparemment, il y a un lien entre la menorah et la ketoret. Quel lien? J'ai pas trouvé.
C'est indiqué, en tout cas.
Oui, c'est indiqué. Non, mais on voit qu'il y a un lien. D'accord? Il n'y a pas un lien avec les sacrifices, il y a un lien avec la menorah. Alors, il faut savoir.
Les deux montent?
Peut-être. Il faut savoir que techniquement, les deux se passaient l'un à côté de l'autre. D'accord? Puisque la menorah était positionnée dans le Beth Amikdash et même dans le Mishkan, non. Juste à côté de l'hôtel des Ketoret. Je ne sais pas pourquoi.
Les Ketoret, ils étaient posés ou on les faisait circuler dans le Beth Amikdash?
Non, les Ketoret, il y avait un stock de Ketoret.
Mais quand on les allumait?
Quand on les allumait, on prenait une mesure qu'on verra après.
Et un hôtel.
Et une mesure.
Un hôtel, mais ça ne tournait pas.
Ah non, pas du tout. Une mesure le matin, une mesure l'après-midi.
Tu peux traduire Ketoret par quoi? En sens?
En sens?
Oui. Et après, il n'est pas au pluriel le mot.
Pourquoi il n'est pas au pluriel?
Ketoret, c'est pas du pluriel?
Non.
C'est pas du pluriel, Ketoret.
Voilà.
Ah, c'est du pluriel, Ketoret? C'est du pluriel, Ketoret.
Non, c'est bon, il s'amuse. Alors,
Le résultat, c'est la Ketoret, c'est le résultat.
Oui, je pense que c'est le nom, ouais, le nom du mélange.
Mais on dit les Ketoret, et pourtant c'est un adjectif.
Ketoret, c'est
masculin.
Ketoret, ça veut rien dire.
C'est un singulier.
Pourrais-je demander
la racine de Ketoret, c'est brûler. L'actir, c'est brûler.
L'actir, c'est brûler.
Brûler. D'accord. Donc Ketoret, ça veut dire ce qu'on va brûler. Maintenant, bien sûr, on traduit ça par instant.
C'est pas que ça va avec la menorah.
Menorah, oui, parce que ça brûle.
Ouais,
mais la menorah ne sert pas à brûler. C'est la question que je me pose. Pourquoi c'est pas lié aux sacrifices? Parce que pour les sacrifices, c'est pas exactement le moment. Pourquoi? Je sais pas. Donc, Ketoret Tamid Lifne Hashem. Donc, c'est une encens qu'on devrait offrir constamment. C'est-à-dire, Tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi toujours? Toujours, a priori, ça veut dire perpétuel. Ça veut dire même le Shabbat. L'Ifne Hashem, devant Dieu, donc on a expliqué c'est quoi devant Dieu, ça veut dire dans le Beth Amikdash, les Dorotechem, pour toutes les générations, ça veut dire c'est pas seulement dans le désert, mais c'est dans toutes les générations, dès qu'on a le Beth Amikdash, on doit offrir les Ketoret. Je vais être attaché la semaine prochaine, on verra plus le
Shabbat,
lors des
Ketoret.
Ouais. Tous les sacrifices, tout ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash,
on le faisait
le Shabbat.
Il sortait du caractère de Shabbat.
Par contre, préparer les Ketoret, on n'avait pas le droit.
Quand on t'a dit que c'était une mitzvah.
Oui, mais ça, on aurait pu le faire avant. Ah oui, faut pas non plus exagérer. Préparer les ketorot, on n'a pas le droit, mais les faire.
Les faire, on avait le droit. Au Beth Amikdash, il n'y avait pas de
notion. On avait le droit, on a l'obligation de le faire.
Donc il n'y avait pas la notion de Shabbat qui sortait de, ouais. De Beth Amikdash, quoi.
On apprend à part Shabbat et Kel, ça. Que tous les 39 travaux sont repoussés pour Shabbat. Non, justement.
Donc on peut brûler des ketorot pendant Shabbat aujourd'hui.
Non, de là-bas, il y a une dracha qui dit que tous les travaux de Shabbat ont été repoussés. Ouais. Pendant le Beth Amikdash, toujours.
Dans le Beth Amikdash.
Oui.
Dans le Beth Amikdash.
Mais par contre, la construction du Mishkan, on n'a pas le droit de la faire pendant Shabbat.
Liktor, je ne sais pas si ça veut dire brûler.
Même en hébreu moderne,
à l'époque, aujourd'hui on ne l'appelle plus comme ça, le chauffeur d'un wagon de train, on l'appelait le Qatar. Parce que vous savez, à l'époque, le premier wagon, c'est le wagon dans lequel il y avait le charbon. Et on appelait ça, écoutez bien, on appelait ça le Qatar.
Oui.
Qatar. Oui. Couf, c'est la même chose, hein. Couf,
oui.
Tête.
Oui, mais c'est comme tu vas dire aujourd'hui, le chauffeur d'un autobus, il chauffe plus rien. Tu comprends?
Oui, d'accord.
Bon, alors, qu'est-ce que ça vous dit?
On l'appelle
non, mais c'était pourquoi? Pourquoi on appelait ce mot-là? Parce que c'était bien précis par rapport à qu'est-ce qui était consumé.
Non. Qatar,
on devrait dire un consumeur. On ne devrait pas dire un brûleur.
Oui,
un consumer. Mais parce que ça a un rapport avec le
fait de consommer, si vous voulez, oui.
Ben oui.
Oui, mais attendez, ça va.
Parce que si tu brûles